Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, je suis heureux de recevoir ce soir un homme qui est tombé dès l'âge de 12 ans dans le chaudron d'une passion peu commune et qui en a fait une entreprise qu'il dirige depuis bientôt 25 ans, entreprise qui est installée à Novien-au-Pré, pas loin de Pont-à-Mousson. Bonsoir Jean-Baptiste Gopillat.
Bonsoir.
Alors vous êtes facteur d'orgue, c'est une denrée relativement rare en Meurthe-et-Moselle.
Ah oui, c'est effectivement assez rare.
Vous êtes le seul, non ?
Alors, je préciserai que je suis le seul atelier.
Le seul atelier. Mais voilà. Il y a des facteurs sans atelier, des facteurs volants.
Voilà, des électrons libres, ça arrive, oui.
D'accord.
Il paraît qu'on en trouve.
Alors, avant de parler de cette passion qui vous anime depuis très longtemps, on va revenir à votre parcours. Alors, vous êtes né en 1970 et vous avez commencé l'orgue à l'âge de 12 ans.
Oui, c'est ça, j'étais en cinquième.
Voilà. C'était à Saint-Dizier ?
À Saint-Dizier, au collège de Lestic, un collège privé.
Ah oui, fameux collège de Lestic, bien connu dans la région.
Eh oui, et il se trouve que là-bas, il y avait un prof de musique, Régis Foucard, qui était donc organiste, et qui proposait des cours d'orgue.
Mm-hmm.
Collège privé, chapelle avec orgue, et orgue de très très mauvaise qualité.
D'accord. Donc c'est comme ça qu'on apprend à bien jouer, paraît-il.
Oui, ben ça n'a pas marché sur moi. et voilà, et donc quand j'allais, je passais toutes mes récréations et tous mes temps libres, j'avais réussi à avoir la clé de la tribune de l'orgue de la chapelle. Et il y avait sans cesse des problèmes, des notes qui restaient coincées, des choses comme ça. Alors j'ai fini timidement par aller regarder un peu ce qui se passe, ouvrir un panneau, comprendre, voir tous ces mécanismes impressionnants. Et puis, ben, j'en suis jamais sorti, en fait.
Voilà. Bon, alors attendez, avant de revenir, après Régis Foucard, vous êtes allé au conservatoire de Troyes.
C'est ça.
Chez Jean-Marie Ménien.
C'est ça. Donc Régis, j'ai dû faire 3 ans avec lui. Il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment commencer, il faut continuer, il ne faut pas rester avec moi, il faut aller au conservatoire. Alors, ça pouvait être Reims ou ça pouvait être Troyes. Ça s'est fait 3 par commodité. On s'était renseigné auprès d'Olivier Latry, qui était à l'époque à Reims.
Oui, voilà. Tout à fait.
Et voilà.
D'accord. Et alors, Jean-Marie Ménien était un spécialiste de facture d'orgue.
Voilà, il était effectivement technicien conseil, c'est-à-dire c'est un petit peu ces gens qui sont un peu l'équivalent des architectes en chef des monuments historiques pour les orgues. Et ce qui fait qu'il était très introduit et très connaisseur du monde de l'orgue et de la facture d'orgue. Et puis, au gré des cours et des discussions, il m'a dit, tu sais, il y a un facteur d'orgue pas loin, voilà, peut-être que tu devrais le rencontrer, et, etc. Puis ça s'est fait comme ça.
C'était Laurent Play.
C'est ça.
Et donc, après, vous avez travaillé chez Laurent Play ?
Alors voilà, donc j'ai quitté au grand dam de mes parents, bien sûr, et des profs. Tu veux être facteur d'orgue, mais tu n'arriveras jamais à rien, etc. Passe ton bac d'abord. Mais finalement, j'ai fait exprès de ne rien faire en seconde, et puis une deuxième seconde, et puis je ne pouvais toujours pas aller en première parce que j'avais volontairement rien fait. Donc ça a un petit peu décidé mes parents à me laisser vers la voie de l'apprentissage. Donc à 17 ans, je suis rentré comme apprenti dans l'entreprise de Laurent Play. Et donc un apprentissage qui dure 3 ans. Et puis après, je suis resté salarié chez lui.
Mmh. Et pendant cette période-là, vous avez fait des stages à Echaud.
C'est ça. Donc Echaud, alors c'était le début de cette formation. Les facteurs d'orgue s'étaient battus dans les années 80 pour obtenir un centre de formation propre à la facture d'orgue, ce qui n'existait pas avant.
Mmh.
Et je crois que ça a ouvert en 85.
C'est en Alsace. Hein.
C'est en Alsace, au sud de Strasbourg, tout à côté de Ilkirch-Grafenstaden. Et alors, pourquoi l'Alsace, c'est franchement excentré par rapport aux autres, mais voilà, vous avez entendu dire Alsace, terre des orgues.
Ben oui, quand même.
Beaucoup d'orgues, beaucoup d'entreprises.
Ah, oui.
Et puis aussi une volonté locale que ça se passe là-bas. Donc j'ai fait des stages, l'alternance qu'on connaît bien par l'apprentissage, où j'allais là-bas 3 semaines tous les 3 mois, voilà, pendant 3 ans.
Et alors vous faisiez du travail sur des instruments, vous partiez sur le terrain ou c'était des cours plus théoriques ?
Alors il y avait à la fois enseignement général et enseignement professionnel, Et ben, l'enseignement professionnel doit accueillir un petit peu tout le monde là où il en est. Mmh. Alors, on pouvait y avoir des gens qui étaient déjà très très formés en menuiserie et ébénisterie, et puis d'autres non, pas du tout. Donc, il y a tout l'apprentissage de base qui doit se faire à l'établi, à faire des assemblages de menuiserie, et puis beaucoup de cours théoriques quand même. L'orgue, c'est quand même assez complexe. Oui. Et il y a beaucoup de théories, de calculs, de connaissances à... avoir. Et de toute façon, les 3 ans, c'est tellement infime par rapport à tout ce qu'on doit apprendre.
Que oui, il faut 3 ans, c'est rien. Oui, il faut une vie, quoi, pour
savoir un petit peu. On en sort en sachant qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre.
D'accord. Et puis alors, en 99, c'est le grand saut.
C'est le grand saut, effectivement. Donc, après 10 années passées comme salarié chez Laurent Play. Alors, au départ, je voulais pas m'installer à mon compte parce que je sais que c'est très compliqué. Et puis, plusieurs concours de circonstances ont fait que. On travaillait depuis 3 chez Laurent Play de plus en plus en Lorraine. Il y a une entreprise qui avait déjà fermé, une autre qui allait fermer, la grosse maison Herpfer. Et puis, finalement, l'idée a germé comme ça. Et j'ai cherché près de Nancy, près de Metz, comment on pouvait s'installer. Et puis, juste à ce moment-là, est décédé Théo Herpfer, le patron de cette grosse entreprise historique là à Boulay, la maison Herpfer. Et son épouse espérait que je reprenne la suite. Moi, je le souhaitais pas trop parce que je voulais pas aller en Moselle. Ça me paraissait, moi, champenois, vraiment un
territoire.
Avec un droit vraiment, qui est quand même particulier, enfin, en tout cas vu de l'extérieur. Et donc je souhaitais chercher plutôt vers la Meurthe-et-Moselle. Mon épouse à l'époque était native de Nancy, donc voilà, ça lui plaisait bien de revenir par là.
Mmh. Bon, bah écoutez, on va écouter un petit peu de musique. Alors on parlait de votre passion pour l'orgue, évidemment. Alors vous avez rencontré Norbert Petri lors de stages.
Oui, j'ai fait des stages à l'Académie de Saint-Dié, qui a eu au moins 40 ans d'existence. Et alors, quand je suis allé là-bas, j'ai découvert un autre univers. J'ai découvert qu'on pouvait jouer autrement que ce que mon prof me faisait faire. J'ai découvert des multitudes de façons de jouer de la musique différentes. Et il y avait dans tous les professeurs, notamment Norbert Petri, voilà, qui est un personnage et qui, quand on l'écoute, nous transporte.
Alors, on va le laisser nous transporter dans quelques extraits de l'Orgelbüchlein de Jean-Sébastien Bach, un enregistrement qu'il a fait sur l'orgue de Saralbe.
Thank you.
Voilà, c'était deux courts extraits de l'Orgelbüchlein de Jean-Sébastien Bach dans l'interprétation de Norbert Petri sur l'orgue de Saralbe. Alors, Jean-Baptiste Gopilla, quand on entend de l'orgue comme ça, on arrive à écouter la musique ou alors il y a toujours l'oreille du technicien, du spécialiste qui est quelque part dans ce qu'il entend ?
Quand on l'écoute dans des bonnes conditions, oui, on arrive à n'écouter que la musique. Le pire, c'est vraiment quand on est en direct à un concert d'inauguration, l'inauguration de son propre travail. Là, on est quand même un petit peu tendu parce qu'on n'entend que les défauts, évidemment, que personne n'entend. Enfin, à moins qu'il soit vraiment majeur. Mais nous, on garde dans l'oreille tous les moments où on a heurté, on a buté sur des choses auxquelles on n'arrive pas, parce que le studio ne veut pas parler d'une telle manière ou telle manière. Donc on garde ça imprimé dans l'oreille et assez longtemps.
Bien, alors justement, on va peut-être aller rentrer dans les rouages de votre manufacture. Alors vous avez combien de mètres carrés pour travailler ?
Assez grand, je crois que j'ai 550 mètres carrés, quelque chose comme ça.
Et alors en hauteur, ça doit être assez volumineux
parce j'ai un endroit où j'ai 11 mètres de hauteur.
Donc vous pouvez faire des concevoir ou restaurer des grands instruments.
Je pourrais.
Avec des très grands tuyaux.
Voilà, je pourrais, il y a tout ce qu'il faut.
Il y a tout ce qu'il faut, faut bien commencer par un bout.
Voilà.
Et alors, vous travaillez seul ou vous avez des apprentis, des stagiaires ?
Alors, ça dépend un petit peu des périodes. Le recrutement est quand même malheureusement très, très difficile. Donc, selon les périodes, ça varie. J'ai été jusqu'à 5 salariés à une époque. Et il m'est arrivé, j'ai eu des périodes où j'étais tout seul ou avec une seule personne. C'est un peu, c'est pas des choses qu'on maîtrise beaucoup, hélas.
Ah oui.
Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, après coup, en m'installant dans ce petit village entre tous les Pont à Mousson, ça attire pas tellement. Et puis, comme le métier recherche et recrute, le candidat, soit à l'apprentissage, soit celui qui est déjà formé, choisit l'entreprise dans laquelle il veut travailler. Et il va choisir le soleil, il va choisir la grande ville, mais pas Novian-Auprès.
Et il a tort.
Et il a tort, évidemment.
Bien sûr. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'organise une semaine de travail chez vous. Ça commence tôt, ça finit tard, vous êtes loin de chez vous,
Alors ça, pareil, c'est à chaque fois différent. Quand on est en atelier, c'est des horaires assez faciles.
Parce que vous habitez à côté de l'atelier.
Moi, j'habite sur place, oui, tout à fait. Oui. 8h midi, et puis c'est jamais midi, en fait.
Mais vous ne pointez pas.
Ah non.
Vous ne vous auto-pointez pas.
Non, pas du tout. En revanche, quand on est en déplacement, alors là, on cumule quand même les heures, parce que le déplacement coûte cher. Mmh. Alors, plusieurs facettes dans le métier, effectivement, tout ce qui est entretien-maintenance. Donc là, on fait beaucoup de kilomètres, mais on rentre très souvent le soir.
Ouais.
J'entretiens des orgues en Belgique, beaucoup en Moselle, dans le territoire de Belfort, en Meurthe-et-Moselle évidemment, Vosges, voilà. Et puis sinon, l'autre facette du métier, ce sont soit des travaux, soit des restaurations, où là, ça peut nécessiter du déplacement sur la longue durée. Donc, je ne dépasse pas, moi, la semaine de déplacement. Il y a des entreprises où ils partent, quand ils vont très loin, ils partent plus que ça.
Ouais, oui.
Moi, j'ai jamais fait, puis ça ne me tente pas trop quand même. Et par exemple, la semaine dernière, je suis parti lundi matin, je suis allé accorder un orgue à Mons en Belgique. Et puis après, je suis allé à Paris, de mardi à vendredi midi à Paris. Et je suis rentré vendredi soir, voilà.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir faire quand on est facteur d'orgue ?
Il faut savoir... Enfin, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir faire. Mais il faut impérativement avoir la curiosité et la patience et la minutie. Alors, le prérequis et qui est quand même assez indispensable, c'est tout ce qui est travail du bois, menuiserie, ébénisterie, charpente. Et puis, il faut avoir un esprit qui comprenne. Si on ne sait pas, c'est pas forcément grave. On va apprendre. Mais comprendre ce qu'il faut, je vais prendre un exemple très très bête, voilà, il faut mettre une vis, on doit percer un morceau de bois pour mettre la vis, bien comprendre qu'on va prendre la mèche de tel diamètre dans laquelle la vis va bien rentrer, puis qu'on va prendre le tournevis de la bonne dimension pour tourner la vis. Et bien ça, je découvre que c'est pas si évident que ça pour tout le monde.
Ah oui.
Du bon sens, tout simplement.
Ouais.
Mais quand on a ce bon sens-là, pratique, On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on apprend. Et puis, voilà, il y a quand même beaucoup de logique. Et puis, bon, de la curiosité.
Ouais.
Et puis, ne jamais... Enfin, il faut savoir dès le départ qu'on n'aura jamais fini d'apprendre.
Mmh. Alors, à côté du bois, il faut aussi s'y connaître un peu dans les métaux.
Alors, on travaille évidemment aussi le métal, qui est un alliage d'étain et de plomb. Plus rarement, du cuivre et du zinc.
Heureusement.
Heureusement, oui, parce que c'est pas la bonne période. Ça a été utilisé dans factures d'orgue à partir de la fin du 19e et surtout après-guerre et pas dans de très bonnes conditions. Le cuir, on utilise le cuir puisque c'est ce qui nous permet de faire l'étanchéité pour la soufflerie. Mmh. Donc c'est, on peut faire des charnières, on peut faire des joints en cuir qui sont souples.
Cuir des peaux, des choses comme
alors,
ça.
Alors de la peau de mouton, de chevreau, de maintenant de vache, voilà, des choses comme ça, qu'on colle avec de la colle animale, la colle chaude, la colle de peau de lapin, comme autrefois.
Ah oui, comme quoi. Hein.
Qu'on travaille donc au bain-marie. Les métaux ferreux aussi, il y a un petit peu de, parfois un peu de forge, de ferraille, de la mécanique évidemment, de l'acoustique, de l'électricité aujourd'hui.
L'informatique
Alors l'informatique, bah, ça on n'y coupe pas. Ouais. Là, bien sûr, maintenant j'ai acheté quand je me suis installé à mon compte une planche à dessiner que je n'ai jamais utilisée parce que j'ai fait des plans à l'ordinateur.
À l'ordinateur, ouais.
Voilà. Et puis, j'en oublie, mais il y a encore plein d'autres facettes au métier. Évidemment, on ne peut pas tout maîtriser à la perfection dans, dans tous ces domaines-là.
Alors, vous vous faites aider de temps en temps ?
Alors, pour, pour certaines choses, oui. Là, par exemple, tout récemment, je dois faire une console neuve, donc c'est-à-dire le meuble où seront les claviers, pour un orgue à Paris. Et on demande un type de vernis bien spécifique à l'ancienne, le vernis au tampon. Bah ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire.
Ouais.
Et donc, bah voilà, j'ai demandé à des personnes qui ont bien appris à faire ça et travailler à l'ancienne. Là.
Oui. D'accord. Alors, c'est quoi la différence entre un simple entretien, le relevage d'un orgue, la restauration d'un orgue ?
Alors effectivement, il y a plusieurs terminologies, on peut s'y perdre un petit peu. Bon, l'entretien, là, maintenant, ça, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est comme pour votre chaudière ou votre photocopieuse, on vérifie, et puis on enlève les mouches crevées, les pigeons crevés dans les tuyaux, et puis on accorde, on vérifie certaines choses sur le son, sur le mécanisme, sur le fonctionnement. Et puis on accorde certains tuyaux. Donc ça, on fait ça idéalement au moins une fois par an. Moi, je vais par exemple 3 fois par an à la cathédrale de Metz, où il y a une grosse activité là-bas. Mais voilà, très souvent, c'est une ou 2 fois par an.
Donc ça, c'est l'entretien. Alors après, c'est le entretien. Relevage.
Alors le relevage, c'est un terme un petit peu intermédiaire, où on fait des travaux dans un orgue sans revenir à un état antérieur qui aurait pu être modifié. On laisse l'état, on laisse l'orgue dans l'état dans lequel il est, mais on fait les travaux qu'il faut pour que ça perdure, donc des réparations, des réglages, les changements des pièces qui sont usées, reprendre l'accord de fond en comble, voilà. Et puis il y a donc effectivement l'autre facette qui est la restauration. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais très souvent sur un orgue qui est un petit peu ancien, il a subi les évolutions du temps et des goûts surtout. Et il a pu être, un peu altéré au fil des ans pour répondre au goût du jour. Alors, quand il y avait réellement une restauration et que l'orgue en vaut la peine ou voir qu'il est classé monument historique, eh bien, c'est un petit peu un travail de recherche d'archéologie où on revient en arrière, on essaye de reconstituer l'instrument tel qu'il avait été conçu à l'époque où à une date intermédiaire parce que il y a une commission qui a décidé qu'il y aurait trop de travail pour revenir totalement à zéro. Donc on choisit une période où l'orgue était cohérent et on restitue cet état-là.
D'accord. Alors les derniers instruments sur lesquels vous avez travaillé, pas simplement accordé ou entretenu, c'est quoi ?
Alors depuis 2-3 ans, je travaille beaucoup sur Paris, en fait. Actuellement, je travaille sur l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Oui. Là, il y a une tranche de travaux. Certains éléments sont restaurés, mais pas l'ensemble parce qu'il n'y a pas le budget. Et puis, on fait des travaux pour redonner un petit peu de cohérence à l'ensemble. Juste avant, j'ai travaillé, pareil, fait des travaux d'urgence à Saint-Germain-l'Auxerrois, l'église des rois de France, à côté du Louvre, là. Mmh. Et actuellement, l'église utilisée pour la liturgie de Notre-Dame qui est délocalisée. C'est un peu ce qui a suscité d'ailleurs les travaux, parce que l'orgue, ne supportait pas l'arrivée des nouveaux organistes de Notre-Dame. Et voilà, qui ont bien secoué l'instrument qui était de toute façon à bout de souffle. Donc malheureusement, pas de travaux d'envergure, mais
ouais, le minimum, quoi.
Le minimum pour que ça puisse marcher encore jusqu'à ce que la liturgie revienne à Notre-Dame. Et puis auparavant, j'ai travaillé à l'église Saint-Philippe du Roule, où là, il fallait en fait démonter l'orgue pour permettre l'accès à la restauration de la voûte au-dessus.
Alors, quand on démonte un orgue, vous êtes tout seul pour démonter l'orgue ?
Alors là, on était allié avec l'entreprise de Laurent Plé.
D'accord.
L'entreprise où j'ai appris le métier, parce qu'il y avait des très gros tuyaux à sortir. Pour ceux qui connaissent, des tuyaux de 16 pieds, ou voire même qui sonnent 32 pieds, donc des tuyaux qui font 7 mètres de long, qui pèsent 120, 130, 140 kilos, donc qui se portent à un certain nombre de personnes, qui ne rentrent pas dans un véhicule, mais seulement dans un poids lourd, dans un 19 tonnes. Le 19 tonnes, on nous a refusé de le garer sur le parvis, donc il a fallu le garer sur la rue, donc il fallait bloquer la rue, donc il fallait détourner les bus de la RATP, donc il fallait bloquer le faubourg Saint-Honoré. Et c'est tout. Ça mène très loin, la facture d'orgue.
Bon, on va écouter un petit peu de musique, concerto de Michel Corrette. C'était le rafraîchissant concerto pour orgue et orchestre en sol majeur de Michel Corrette, dans l'interprétation de l'ensemble baroque de Nice dirigé par Gilbert Bézina et avec à l'orgue René Saourgin.
Tempo classique sur RCN, Dominique Bréda.
Alors Jean-Baptiste Gopilla, les facteurs d'orgue sont souvent enfermés dans les églises et ils ont donc quand même besoin de se retrouver pour partager, pour échanger. Et en cet été 2023, vous avez eu le plaisir d'organiser un congrès.
Oui, il existe donc une association internationale de facteurs d'orgue qui regroupe 280 entreprises à peu près sur 23 pays différents. Donc ne sont adhérents que ceux qu'ils souhaitent, ceux qu'ils veulent, voilà. Et cette association organise tous les deux ans un congrès quelque part sur la planète.
Oui, parce que les adhérents viennent vraiment de partout.
Ah, des États-Unis, du Canada, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de voilà. C'est
vraiment un vrai congrès international.
Et beaucoup d'Europe, évidemment.
D'accord.
Et moi, j'avais participé en 2016 à leur congrès qui était à Londres. Et puis, c'est à l'époque qu'avait déjà germé l'idée de proposer ce congrès en Alsace. Et puis, de l'Alsace, on s'est dit, une journée en Lorraine, ça serait pas mal quand même, au moins. Et donc, c'est comme ça. Alors, c'était prévu pour 2020, et puis ça a été évidemment annulé, reporté. Et ça s'est finalement fait donc cet été, au mois d'août. Donc basé en Alsace avec une journée en Lorraine, on était 140 facteurs d'orgue de 13 ou 17 pays différents, je ne sais plus très bien. Donc il y avait un couple, il y avait des Japonais, il y avait des Canadiens, beaucoup des États-Unis, beaucoup d'Angleterre, Islande, Norvège, Suède, Roumanie, j'en passe évidemment beaucoup. Ouais. Et donc
ça a duré combien de temps?
Une très grosse semaine.
Ah ouais.
Une très grosse semaine. Le début du congrès s'est fait baser à Strasbourg et la fin s'est fait baser à Colmar. Et donc, toute la journée, on se transportait en bus d'église, d'orgue en orgue, avec parfois des concerts le soir. Et une audition de l'orgue, on avait donc salarié deux organistes professionnels, des concertistes professionnels qui reconnus pour leurs improvisations en fait, pour qu'on entende non pas des grandes pièces, mais qu'on puisse entendre de façon rapide toute la panoplie d'un orgue sur les timbres spécifiques de l'orgue, les particularités de l'orgue. Et donc ça, c'était rien de mieux que l'improvisation pour faire ça.
Et il y avait que ce genre de choses, ou alors il y avait des conférences un peu plus théoriques?
Ça a commencé par une conférence en fait de Christian Lutz qui a fait une conférence sur le patrimoine d'orgue en Lorraine, en Alsace et un petit peu en Lorraine, voilà ce qu'il fallait savoir pour bien appréhender le congrès. Donc c'était à commencer par ça, et puis une réception à l'hôtel de ville de Strasbourg. On s'est greffé sur un festival d'orgue Strasorgue qui a lieu à Strasbourg, donc on a pu bénéficier de un petit peu l'organisation et des concerts. Donc on a eu comme ça des concerts à la cathédrale de Strasbourg, à Saint-Paul de Strasbourg, à je ne sais plus le célèbre orgue
Saint-Thomas.
Saint-Thomas. Et puis on s'est fait plaisir aussi en privatisant la Cité du Train. Alors curieusement, dans le monde de l'orgue, il y a beaucoup de passionnés par les chemins de fer. Et donc on s'est dit que ça pouvait être une halte sympathique. Donc on a eu un buffet au milieu des locomotives et des wagons, le wagon de l'empereur, etc. C'était assez rigolo. Et on a terminé par une soirée un petit peu prestige où on avait privatisé le musée Unterlinden à Colmar. Et on a eu des visites privilégiées et guidées, et ensuite on a mangé dans le musée.
Voilà. Écoutez, vraiment, ça vaut le coup.
Hein. À tout cela, il se greffe évidemment un côté plus institutionnel qui était des assemblées générales. Voilà. Et puis, alors je ne vous parle pas des soirées, disons, à l'hôtel où tout le monde se retrouve. Voilà.
Alors on cause en anglais ou on se débrouille?
Alors, heureusement, tout était prévu en trois langues, anglais, allemand. Et puis, on se débrouille.
Après, on travaille avec les mains.
Voilà, voilà.
Avec les mains. D'accord, donc ça c'est un bon souvenir pour vous?
Un très très bon souvenir, parce que ça permet évidemment de partager, parce que on découvre à quel point la facture d'orgue que nous on voit de notre petit point de vue français, franco-français, qui est déjà très vaste, mais qui n'a rien à voir avec, avec ce qui se fait aux États-Unis, avec ce qui se fait... voilà, on découvre en Islande, on découvre en Suède, on découvre voilà. Alors cette fois-ci, il n'y avait pas de Néo-Zélandais, mais il y en avait la précédente fois où j'avais fait le congrès. Enfin voilà, il y a des techniques qu'on peut échanger, aussi sur des fournisseurs. Voilà, c'est des discussions intéressantes, sans
fin. Ça peut déboucher sur du pratique,
pratique, du partenariat, du
tout
à fait. Oui.
Ah oui, ça c'est intéressant. Bon, on réécoute un petit peu de musique.
Volontiers.
On va rester dans l'orchestre avec l'orgue, avec le final de la première symphonie d'Alexandre Guilmant.
Thank you.
Voilà, c'était une version très tonique du final de la première symphonie d'Alexandre Guilmant, avec à l'orgue Edgar Krapp et le chef d'orchestre Vladimir Fedoseyev avec l'orchestre symphonique de Bamberg. Alors Jean-Baptiste Gopilla, on va terminer notre entretien en parlant d'autre chose que d'orgue. Parce que vous avez eu la bonne idée d'organiser et d'avoir envie de faire partager la musique. Et cette envie, vous l'avez concrétisée avec des concerts. Alors je dirais plutôt des salons musicaux que vous organisez chez vous de manière un petit peu intimiste. Alors racontez-nous voir un petit peu tout ça.
En fait, tout est parti, c'est grâce et à cause du Covid. Et cette pause imposée en fait du Covid qui nous a empêché d'aller au concert, qui nous a empêché d'écouter de la musique dans des bonnes conditions, ça fait un petit peu mijoter. On réfléchit, on pense beaucoup. On avait du temps à ce moment-là. Mmh. Et puis je dis mince, moi là, j'ai un rêve, ça serait d'avoir un beau piano. Et puis même si je suis absolument pas pianiste et musicien. Voilà, j'aurais bien aimé entendre des gens, des bons musiciens qui jouent ça à la maison, voilà. Et puis, je sais pas quelle mouche m'a piqué, mais un jour, j'ai commencé à rechercher des annonces de piano. J'étais un petit peu bien fixé. Je cherchais un piano à queue, d'une très belle marque, mais pas des pianos qu'on voit partout. Oui. Donc, pas de Steinway, parce que voilà, c'est ce qu'on a partout. Mm-hmm. Pas de marque asiatique qu'on voit partout dans les conservatoires et tout ça. Et puis, j'ai fini par trouver, sur une annonce en Belgique, un Bösendorfer, un trois quarts de queue. Et puis, je lorgnais un petit peu là-dessus. Donc, forcément d'occasion, hein, oui, évidemment. Oui. Parce que ce sont des pianos qui coûtent une fortune quand ils sont neufs. Oui. Et j'ai demandé à mon camarade Florent Cornu, qui est technicien du piano, accordeur et restaurateur de piano dans la région, surtout sur Metz, s'il voulait bien m'orienter un petit peu, m'aiguiller. Puis, on est allé ensemble en Belgique, dans ce showroom, voir ce Bösendorfer. Et il n'était pas emballé, parce que c'est un piano qui venait d'être restauré. Mais dans le showroom, il y avait un autre piano, un quart de queue, Yamaha. Puis moi, comme je vous l'ai dit, je ne voulais truc. Bon. Ouais. Et il me dit, quand même, celui-là, il n'est pas comme les autres. Et on s'est un petit peu renseigné. Effectivement, c'était un piano de démonstration. Mm-hmm. Alors, vous savez que dans les énormes productions industrielles de ces pianos-là, il y a de temps en temps, il y en a qui sortent du lot. Et c'est ceux-là que la marque prenne pour mettre dans leur showroom, pour démontrer leur savoir-faire et leur piano. Et il s'est retrouvé dans le marché d'occasion. Je suis arrivé à ce moment-là. Et puis finalement, vraiment, les coups de folie, j'allais voir un Bösendorfer et je suis revenu avec un Bösendorfer et un Yamaha quart de queue, voilà. Et mais c'était un sacré coup de poker parce que le Bösendorfer restauré, il était pas achevé, enfin c'était bon, mais le prix était quand même très très intéressant. Et puis, quand le piano est enfin arrivé, j'ai demandé à Florent Cornu de « viens vite voir ». Et puis, il l'a désossé. Et puis, il m'a dit « si, c'est bon, il a été bien restauré. Ça a été fait avec des bons matériaux, de la bonne colle. Il y a pas de problème. On arrivera à quelque chose ». Et alors, donc, c'est lui qui a achevé, en fait. Il a fait beaucoup de réglages mécaniques, l'harmonisation. Et puis, maintenant, ça devient un piano que tous les musiciens qui jouent dessus ont envie de rejouer. Ah. Voilà. Et donc, dans mon salon, il y a ces deux pianos à queue. J'ai aussi fait l'acquisition d'un deuxième clavecin italien d'occasion, et je possédais déjà depuis une petite trentaine d'années un clavecin français. Alors, dans mon idée, c'était d'avoir des instruments destinés un petit peu à la location pour proposer autre chose. Oui, oui. Il ne s'agissait absolument pas de prendre la place d'un loueur qui existe déjà sur place et qui est très efficace, mais d'avoir la possibilité de proposer autre chose. Et puis, c'est quand même lourd, un piano. À déplacer, c'est quand même toute une aventure. Et puis, en attendant de mettre ce projet-là sur pied, je me dis, finalement, mon salon n'est pas si petit que ça. On pourrait peut-être essayer un concert. Et puis un, et puis deux, et puis trois, et puis voilà. Et donc, l'intérêt et l'avantage, c'est qu'au même endroit, il y a deux pianos à queue. Ouais, il y a deux clavecins, qui est extrêmement rare.
Ben oui.
Et alors les pianistes choisissent le piano, ou alors choisissent la pièce qu'ils vont jouer sur un piano et la pièce qu'ils vont jouer sur l'autre piano. parfois c'est le musicien qui est à côté, le violoniste par exemple, qui dit non pour ça, Schumann je préfère ça là, mais Schubert je préfère ça sur le piano. Voilà, alors la jauge est très très petite, hein. Je peux pas aller au-delà de 25 personnes, mais alors on est tout proche. On est tout proche de la musique, des instruments, des musiciens évidemment. Et hier encore, il y avait un concert et une dame m'a dit « Mais mon pull se soulevait, la chair de poule soulevait mon pull. »
La chair de pull.
C'est ça. Et voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas dans les salles dans lesquelles il faut de toute façon aller. Il faut aller à Poirel, il faut aller à l'Arsenal à la Messe, il faut aller à l'Opéra. Ça, c'est indispensable. Mais là, il y a une relation vraiment épidermique et émotionnelle qu'on n'a pas autrement. Et on l'a encore vécu hier, justement. C'est vraiment réciproque et partagé. Mmh. Et la chanteuse nous disait hier, mais je sentais l'émotion que je provoquais, donc ça m'en donnait aussi. Et voilà, il y avait un échange qui se faisait comme ça. Alors, il y a eu... j'organise ça un petit peu une fois par mois, pas plus, parce que c'est quand même, même très lourd. Alors, au début, j'ai contacté quelques musiciens, et puis maintenant, c'est eux qui me contactent.
Voilà, c'est bien. Ça veut dire que ça a pris, et puis que ça a de l'avenir.
Peut-être, oui, si je ne m'essouffle pas, parce que ça prend l'énergie.
Ça prend du temps. Très bien, écoutez Jean-Baptiste, je suis vraiment ravi de vous avoir accueilli, on a passé une heure très intéressante, et alors on va terminer, pas avec de l'orgue, mais plutôt avec quelque chose qui ressemblerait à vos salons musicaux, c'est le premier mouvement de la sonatine pour clarinette et piano d'Olivier d'Artevelle.
Thank you.
Voilà, c'était le premier mouvement de la sonatine pour clarinette et piano d'Olivier d'Artevel. Jean-Baptiste Gopilla, encore merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à Pierre pour la technique. Et puis alors, s'il y a des gens qui ont envie de venir jouer chez vous, ils peuvent vous contacter.
Ou même tout simplement, on va venir écouter.
Ou venir écouter aussi, comme même s'il n'y a pas beaucoup de place.
Ah bah oui, mais des fois, il n'y a pas beaucoup de monde quand même.
Ah bon, ça, c'est vous ne refusez pas de monde encore.
Non, c'est arrivé une fois.
Ah, bon. C'est le début d'une longue série.
Voilà. Donc il suffit de, sur mon site internet, il y a une ligne, les concerts de l'atelier, en cliquant dessus, ça ouvre sur un autre site où il y a tout le détail et toute la programmation et tout ça.
D'accord, très bien. Ben, bonne continuation. Merci Pierre, à bientôt sur les antennes de RCN. Bonne semaine.